Pasteur Olivier.
Amen. Alors, j'essayais de ne pas trop parler parce que j'ai vu qu'on était saturé. Bon, je profite de l'occasion avant de commencer de passer mes salutations à tous les frères, toutes les sœurs, tous ceux qui sont connectés en ce moment. Et cela fait quand même plusieurs jours que nous ne nous sommes pas vus physiquement. Mais nous gardons quand même la communion fraternelle d'une autre manière, bien sûr. Nous allons nous appeler, comme le pasteur Eric l'a précisé tout à l'heure, prendre des nouvelles des uns et des autres. Et je pense que dans ce moment, Dieu veut faire quelque chose dans nos vies. Avant de commencer, je vais prier, je vais remettre ce moment dans les mains du Seigneur. Je prie, Seigneur, je te remercie, je te glorifie, je te dis que toute la gloire te revienne pour ce moment que nous sommes en train de vivre en tant qu'Église. Merci pour toutes ces personnes qui sont connectées actuellement, qui écoutent ce que tu as à nous communiquer ce matin. Seigneur, je veux te remettre, Seigneur, en ce moment et que je sois un instrument, un simple instrument entre tes saintes mains, Seigneur, que tu vas utiliser pour édifier ton peuple, Seigneur, ce matin. Et je prie, Seigneur, que ton Saint-Esprit puisse vraiment prendre le contrôle de l'atmosphère que nous avons en ce temps-ci. Je bénis ton Saint-Nom, je te glorifie. Et Seigneur, que ta parole, Seigneur, touche des cœurs ce matin, et que ta parole transforme des vies ce matin, que ta parole que nous soyons captés par ta parole ce matin. Je bénis ton Saint-Nom, je te loue, je te glorifie, et que toute la gloire te revienne dans le nom tout-puissant de ton Fils, notre Seigneur Jésus. Amen. Amen. Alors, suite à ce confinement, nous avons développé une nouvelle habitude, même si cela ne va pas durer très longtemps. Pour un court moment, nous allons avoir ce style de rencontre, et c'est d'ailleurs ce que font beaucoup d'églises en ce moment-ci. Et je voudrais attirer votre attention sur le fait que l'église n'est pas le bâtiment qui reçoit des gens. L'église n'est pas le bâtiment qui reçoit les gens, mais ce sont les hommes, les femmes, les enfants qui forment l'église. Alors, c'est quand nous allons dans la salle que nous devenons l'église. Donc, l'église n'est pas qu'au Montreuil. Là, nous sommes l'église. Nous ne nous voyons pas, mais nous sommes tous connectés ensemble et nous pouvons dire que nous sommes l'église. Nous sommes tous confinés, comme vous le savez, et l'église ne doit pas s'arrêter de vivre. Et Jésus disait à Pierre, c'est dans le livre de Matthieu, Matthieu 16 au verset 18. Matthieu chapitre 16 au verset 18, Jésus y parlait à Pierre. Moi, je pris la version de la Bible Semeur. Et il dit, en moi, et moi plutôt, Jésus dit, et moi, je te déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre, j'édifierai mon église, contre laquelle la mort elle-même ne pourra rien. Et moi, je déclare, c'est Jésus qui est en train de parler à Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, j'édifierai mon église, contre laquelle la mort elle-même ne pourra rien. Donc Jésus l'a déjà prévu depuis longtemps. Nous savons tous que le plan de l'église, c'est Jésus qui l'a dessiné. La fondation, le fondateur de l'Église, c'est Jésus. Il a bâti son Église et il a dit que la mort elle-même ne pourra rien contre elle. C'est vrai, tout à l'heure, nous avons parlé de l'Église de Mulhouse. Il y a d'autres Églises qui sont persécutées. Il y a des hommes et des femmes qui sont décédés suite à cette pandémie. Mais l'Église, la mort plutôt, ne pourra rien contre l'Église de notre Seigneur Jésus. Amen. Nous suivons tous l'évolution au jour le jour de cette pandémie. Et ce que nous constatons est sans précédent. Nous pouvons le dire, tout le monde suit avec attention l'évolution de cette pandémie. Alors, nous devons, en tant qu'enfants du Très-Haut, être disciplinés. Disciplinés et même exemplaires. pour combattre ce virus. Nous devons être très disciplinés et même exemplaires pour combattre ce virus. Alors, je peux vous dire qu'on a été tous guidés par le Saint-Esprit, parce que quand j'ai écouté l'intervention de chacun de nous tout à l'heure, on est tous autour du sujet que j'ai préparé. Alors, le président, l'autre jour, dans son discours, disait que nous sommes en guerre. Et quelqu'un l'a répété tout à l'heure. En guerre contre un ennemi invisible. Et de ma part, je crois qu'il avait vu juste. C'était pas du tout un mensonge. Il a vu juste. Seulement que dans cette guerre, on combat contre un ennemi invisible. Nous devons combattre cet ennemi et nous devons le vaincre. Lorsque on dit qu'il y a une guerre, généralement, c'est des nations qui s'élèvent contre d'autres nations ou bien une autre nation. Et lorsque les nations vont en guerre, elles se battent contre un ennemi visible, un ennemi qu'on voit pour pouvoir tirer sur l'adversaire. Mais dans ce cas précis, personne ne voit l'ennemi. Cela rend la tâche difficile, voire même impossible pour les militaires. Aucun militaire, si vous remarquez, depuis que ça soit en Chine, que ça soit en France, en Italie, en Espagne ou même en Israël, il y a aucun militaire qui a sorti son arme parce que certes on est en guerre, mais on ne voit pas l'ennemi. Il y a encore quelques semaines, on pouvait encore parler des grandes puissances, des grandes armées les plus puissantes du monde. Aujourd'hui, les grandes armées et les petites armées sont tous au même niveau. Au même niveau. Il n'y a pas une armée qui est forte, il y a une armée qui est petite. On est tous confrontés à la même situation. On combat tous le même ennemi en ce moment-ci. L'armée, ou bien les nations aujourd'hui ont tous les mêmes ennemis à combattre. L'ennemi qu'on appelle le COVID-19. Mais d'un autre côté, nous avons une autre armée aussi bien puissante pour affronter ces ennemis invisibles que nos autorités ne connaissent certainement pas, ou bien que nos autorités négligent. Mais c'est pas toutes les autorités qui négligent cela, parce que j'ai entendu dans certains pays, ils ont décrété même une journée de prière ou bien des moments de prière, y compris avec le gouvernement. Mais je pense que beaucoup, la majorité des pays ignorent encore la puissance de cette armée que nous sommes. Tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ font en principe partie de cette armée. Et j'ai bien dit en principe de cette armée, parce que certaines personnes, évidemment, ont cru en Jésus, mais ne savent pas qu'ils ont cette possibilité. Et regardez très bien, en citant les signes qui accompagneront ceux qui auront cru, Jésus disait aux disciples, « En mon nom, vous chasserez des démons. » Il disait, « En mon nom, vous chasserez des démons. » Et je pense qu'au jour d'aujourd'hui, on peut considérer ce virus comme un démon. Nous avons reçu l'ordre de notre Seigneur de chasser les démons en son nom. Donc, nous pouvons actuellement mettre cette parole en application. Nous pouvons nous servir de son nom pour chasser ce démon actuellement. Tout à l'heure, nous avons eu des moments de prière et nous avons ordonné la propagation. Nous avons ordonné la fin de la propagation de ce virus. Nous pouvons aussi chasser ce virus. Nous avons reçu l'ordre de notre Seigneur de pouvoir le faire. Jésus lui-même nous a donné l'arme avec laquelle nous devons le chasser. C'est par son nom. Il dit, en mon nom, vous chasserez des démons. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Et je dirais même une grande puissance dans le nom de Jésus. Nous avons pour habitude de chanter cette chanson. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. C'est vrai. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Et aujourd'hui encore, nous pouvons utiliser cette puissance. Le problème, c'est que beaucoup ne le savent pas. Et d'autres le savent, mais ne savent pas bien s'en servir. Autrement dit, ils s'en servent mal. D'autres le savent, mais ils s'en servent mal. Nous pouvons aussi lire dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 7, au verset 14, ce verset que j'aime beaucoup. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom. Alors, regardez bien. Là, il dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je les ôterai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Je pense qu'il y a quand même des caractéristiques que nous devons avoir pour pouvoir utiliser efficacement le nom de Jésus. Un, dans un premier temps, seuls ceux qui ont cru en lui, ceux qui ont cru en Jésus, peuvent se servir de son nom comme âme. Et quand nous prenons un peu ce verset que nous venons de lire à l'instant, nous verrons qu'il dit, si mon peuple, celui qui est invoqué mon nom, s'humilie, je pense que le peuple doit s'humilier. Le peuple doit être dans l'humilité, l'humilité. Ce n'est plus du tout le moment qu'on dise, moi je suis ceci, moi je suis, moi je peux ci, moi je... Non, nous devons être dans l'humilité. Si il y a une condition, la Bible dit, si mon peuple s'humilie et s'il prie, c'est le temps que nous avons assez de temps maintenant pour prier. Nous sommes confinés à la maison, oui, on crie, mais je pense que Dieu veut qu'on passe du temps avec lui aussi. C'est le moment vraiment, moi j'ai développé des habitudes, il y a beaucoup de choses, parce que je suis aussi confiné comme tout le monde. Je vais de temps en temps travailler quand c'est nécessaire, mais quand c'est pas nécessaire, je suis à la maison. Mais j'ai développé d'autres habitudes. Je passe beaucoup plus de temps avec Dieu maintenant qu'avant. Et je pense que c'est ce que Dieu veut de nous. Parfois, je me réveille le matin, je suis dans l'adoration jusqu'à midi. Avant de commencer par regarder les événements, comment suivre, comment les choses évoluent. Mais je passe du temps avec mon Dieu d'abord. Et ça, c'est quelque chose que j'ai même perdu. Le matin, à 8 heures, on doit aller au travail, il faut sortir de la maison à 7h30, il faut faire vite, on n'a pas le temps. Mais Dieu nous a accordé le temps maintenant. Et je pense que nous devons pouvoir passer du temps dans la prière. Juste après, il dit, s'il cherche ma face, je ne sais pas comment nous cherchons la face de Dieu. Gloire à Dieu si nous passons du temps à chercher la face. Gloire à Dieu. Mais maintenant, nous devons doubler le temps que nous passons pour chercher la face de Dieu. Et juste après, il dit, s'il se détourne de ses mauvaises voies, Dieu veut que nous nous détournions de nos mauvaises voies. Dieu veut que nous nous détournions de nos mauvaises voies. Ce n'est plus du tout le temps maintenant d'avoir un pied à l'extérieur, un pied à l'intérieur, et je suis de l'autre côté, je suis encore de l'autre côté. Non. Dieu veut que nous nous détournons de nos mauvaises voies. Nous devons fuir le péché maintenant. Et Dieu promet, après avoir fait tout ça, c'est-à-dire si le peuple s'humilie, s'il prie, s'il cherche sa face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, Dieu lui-même y promet qu'il les ôtera des cieux. Regardez, tout à l'heure, nous sommes tous en prière. C'est pas seulement nous. Partout dans le monde, il y a des hommes et des femmes qui sont en prière, qui demandent que Dieu nous exauce maintenant, que Dieu exauce les nations maintenant. Mais Dieu y pose aussi ses conditions. Il faudrait que le peuple puisse s'humilier. Le peuple sur lequel le nom de Dieu est invoqué puisse s'humilier. Qu'il prie et qu'il cherche sa face, et surtout qu'il se détourne de ses mauvaises voies. Et en ce moment, Dieu, il va exaucer nos prières. Il dit qu'il pardonnera nos péchés. Il promet aussi qu'il va guérir nos pays. Regardez les pays au jour d'aujourd'hui. Les pays. Beaucoup de gens sont malades. Quand je regarde, on parle de ceux qui sont morts. Il y a ceux qui sont dans les hôpitaux, des milliers et des milliers de personnes.
Mais Dieu y promet que si nous remplissons les conditions, il guérira nos pays. Et ses oreilles, ses yeux seront ouverts désormais. Ses oreilles seront attentives à nos prières. Dieu sera attentif à nos prières. C'est une promesse. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il dit, il le fait. Nous sommes confinés, non pas pour dormir chez nous, non pas pour être dans la distraction et zapper sur toutes les chaînes de télé, regarder les séries, mais nous sommes confinés pour prendre conscience et prendre nos armes. Nous devons gagner cette guerre. Nous devons la gagner, cette guerre. Nous lisons très souvent dans les épîtres aux Éphésiens plutôt, chapitre 6, verset 12. Ça, c'est un verset que je sais que le pasteur Christian, il aime beaucoup. Car nous n'avons pas à lutter contre des êtres de chair et de sang. Moi, j'utilise la version Semeur parce que ça amplifie un peu. Les mots sont utilisés, c'est des mots qui sont, ça pèse l'eau. Donc j'ai choisi exprès la version Semeur pour préparer ce message. Alors il dit, car nous n'avons pas à lutter contre des êtres de chair et de sang. Autrement dit, nous n'avons pas à lutter contre des humains, mais contre des puissances, contre des autorités, contre des pouvoirs de ce monde des ténèbres et contre les esprits du mal dans le monde céleste. Nous sommes en guerre, mais notre guerre n'est pas contre un peuple, une armée de chair, mais notre guerre est contre des esprits de mal dans ce monde. Notre guerre est contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde de ténèbres, contre des puissances. Et quand nous lisons dans le verset 13, il dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Nous serons tous d'accord qu'aujourd'hui, nous sommes dans le mauvais jour. Nous devons prendre toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Dieu nous appelle à prendre nos armes, à prendre les armes et combattre pour tenir ferme. Le verset 14 dit, « Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pouvez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Prenons la parole de Dieu. Et je vous en conjure, mes frères, mes sœurs, c'est le moment que nous allons passer beaucoup plus de temps dans la parole maintenant. Beaucoup ont peur en ce moment. Mais je nous exhorte à être dans la paix. Le pasteur Christian, Eric, l'a dit tout à l'heure. Ne soyons pas dans la peur, mais soyons plutôt dans la paix. Dans la paix. Quelqu'un, je ne sais plus qui, a lu le livre de Luc tout à l'heure, et c'est quelque chose que j'avais noté, hein. Il dit, Luc 21, verset 9, il dit, « Quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne soyez pas effrayés, car il faut que ces choses arrivent premièrement. » Ces choses doivent arriver. Nous avons peur simplement parce que nous n'étions pas préparés, ou bien nous avons peur parce que nous ne le savions pas. Ces choses doivent arriver, mais ce n'est pas encore la fin. Ça ne sera pas encore la fin. Donc ne croyez pas que c'est la fin. Et certes, les gens sont en train de crier, c'est la fin, c'est la fin. Non, nous devons croire à la parole. La parole de Dieu, c'est la vérité. Ces choses doivent arriver, Ne croyons pas que c'est la fin. Je voudrais quand même que nous prenions conscience que nous allons vers la fin. Même si ce n'est pas encore la fin. Le verset que nous avons lu tout à l'heure dit, mais ce ne sera pas encore la fin. Il dit, pas encore la fin. Donc la fin arrive. Nous allons vers la fin. Même si ce n'est pas encore la fin. Nous devons nous préparer. Je ne dis pas ceci pour nous faire peur. Et je ne dis pas ceci pour créer un mouvement de panique, non. Mais nous devons nous préparer parce que nous allons vers la fin. Il y a des signes que la Bible nous a cités. Il dit, les nations s'élèvera, mais une nation s'élèvera comme contre une nation. Et un royaume contre un royaume. Il y aura le tremblement de terre. Et en divers lieux, des pestes et des famines, il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. Je pense que chacun de nous, nous sommes conscients que ces signes, nous les voyons déjà. Nous sommes en 2020. Nous avons vu des famines déjà. Nous avons déjà vu des tremblements de terre. Nous avons déjà vu des pestes. Nous avons déjà vu des phénomènes terribles. Et je pense que là, nous sommes en train d'aller vers la fin. Frères et sœurs, préparons-nous. Réveillons-nous, nous qui dormons encore. C'est le moment de se lever. Dans le livre d'Apocalypse, chapitre 12, il nous est rapporté que c'est pourquoi nous devons nous réjouir. Dans le verset 12, hein, Apocalypse 12, verset 12, c'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Sachant qu'il a peu de temps. Mes frères, le diable a peu de temps. Il connaît déjà sa fin, mais là, il est descendu animé d'une grande colère. Je tiens simplement à nous rappeler que le diable est venu vers nous. Il est animé d'une grande colère, sachant que la fin est proche. La fin n'est pas proche pour nous, mais la fin est proche pour lui. La fin est proche pour lui. En qui nous mettons notre sécurité? Gloire à Dieu pour la sécurité sociale que nous avons en France. Aux États-Unis, il n'y a pas la sécurité sociale universelle. Dans nos pays africains, il n'y a pas la sécurité sociale universelle. En qui nous mettons notre sécurité? Les fortunes. J'ai entendu, je crois, c'est Silvio Berlusconi qui a fui l'Italie et il est venu se réfugier en France. Sans savoir, bon, parce que c'était pas encore dégradé en France quand il est parti. Il est parti de l'Italie et il est venu s'installer parce qu'il a de l'argent. Ta fortune n'est pas ta sécurité. Au jour d'aujourd'hui, tu peux être même milliardaire. Tu es confronté à la même situation que tout le monde. Notre rang social n'est pas notre sécurité. Notre carrière n'est pas notre sécurité. Notre degré d'éducation n'est pas notre sécurité. Nous devons comprendre aujourd'hui que la sécurité, c'est Jésus. La sécurité, c'est la croix. Et la croix seule. J'ai entendu l'histoire de ce petit enfant qui était perdu quelque part dans la nature. Et le jour qu'il était perdu, il y avait eu une grande neige. Et il ne reconnaissait plus le chemin pour retourner chez lui. Alors la police l'a récupéré en route et la police voulait l'accompagner chez lui. Malheureusement, le petit garçon ne connaissait même pas l'adresse de son domicile. Et la police dit, mais on veut bien te ramener chez toi, mais comment pouvons-nous savoir où tu habites ?» Le petit n'a aucune information sur sa maison. Mais en lui posant des questions, il s'est rappelé, parce qu'on lui a demandé « Est-ce qu'il y a des signes autour de ta maison ?» Il s'est rappelé que quand il est dans sa chambre, de sa fenêtre, il voit la croix d'une église. Et il a raconté à la police que de la fenêtre de sa chambre, il voit une grande croix, la croix d'une église, qu'il voit directement de sa fenêtre. Et la police a dit, « Ok, on ira chercher cette croix. » Alors, quand ils ont réfléchi, ils ont dit, « Combien d'églises il y a ?» Ils ont imaginé les églises qui ont de grandes croix. Et la première, le petit même, il leur a dit, « Si vous arrivez seulement à me déposer au pied de la croix, je vais retrouver ma maison. Je reconnaîtrai la fenêtre d'où je vois cette croix. » Donc, on l'a amené effectivement à une croix. Dès qu'il est arrivé à la croix, le jeune homme a compris tout de suite que, « Ah, voilà la croix que je vois de la fenêtre de ma chambre. » Et le policier, la police l'a laissé au pied de la croix. Et tout de suite, il a couru pour rentrer chez lui. Qu'est-ce que je veux nous dire par cette histoire? La sécurité de cet enfant, en ce moment, c'était la croix. Cette croix de Jésus qu'il voit de sa chambre. J'aimerais nous dire ce matin que nous devons tourner notre regard vers la croix de Jésus, qui est notre sécurité. L'argent n'est pas notre sécurité. La puissance n'est pas notre sécurité. Tout à l'heure, nous avons prié pour l'économie. L'économie même mondiale est tremblée. Ce qui veut dire que ce n'est pas du tout même ce qui est notre sécurité. Notre sécurité aujourd'hui, c'est Christ sur la croix. Il a été à la croix pour nous sauver. Je ne sais plus qui a lu tout à l'heure le psaume 91. Et je crois que c'est le pasteur Eric qui dit, le premier verset nous dit, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, à l'ombre, repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Celui qui demeure. Le verbe « demeurer », ce n'est pas le verbe « aller ». Beaucoup de gens vont à l'abri du Très-Haut. Ah, vous allez voir, même parmi nous, beaucoup de gens viennent et ils louent le Seigneur, mais ils viennent, ils ne demeurent pas. Je vous prie ce matin que nous considérons la différence entre « aller » et « demeurer ». Même « serve ». Il y a beaucoup qui servent le Très-Haut, mais ils ne demeurent pas à l'abri du Très-Haut. Faisons cette différence. Nous lisons beaucoup, je regarde beaucoup de gens, lisent le psaume 91 en ce temps-ci. Oui, gloire à Dieu pour le psaume 91, mais ce psaume est pour ceux qui demeurent à l'abri du Très-Haut. Demeurons à l'abri du Très-Haut. Dieu nous interpelle aujourd'hui. Je vais terminer par nous exhorter et nous dire que gloire à Dieu pour ceux qui connaissent le Seigneur aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'il en est pour nos frères, nos sœurs, nos connaissances, nos amis, nos collègues qui ne connaissent pas le Seigneur? Que faisons-nous? Aujourd'hui, nous sommes en train de pleurer. Et je pense que c'est le moment quand nous prenons des nouvelles. Moi, quand je prends des nouvelles maintenant, j'édifie les gens. C'est le moment que tu dois donner ta vie à Christ. C'est le moment que tu dois donner la vie au Seigneur. Vous savez, il y a un homme de Dieu que j'aime beaucoup qui était un jour sur un vol. Il allait aux États-Unis. Il partait du Ghana. Et pour vous, pour certains qui ont déjà pris l'avion, vous savez, on rentre par moment dans des zones de turbulence. Et ce jour, l'homme de Dieu, il était dans ce vol. Il était dans ce vol, il allait aux États-Unis parce que Dieu lui a dit d'aller quelque part pour une mission spécifique. Et il a pris l'avion, il partait. Donc, C'est exactement comme l'histoire de Jésus quand il était dans la barque. Jésus connaissait très bien sa mission et ce n'était pas le jour qu'il allait mourir. Donc, cet homme de Dieu était dans cet avion, il y avait une turbulence. Et tout le monde était effrayé, ils avaient peur qu'ils allaient mourir. Il y avait des Arabes, il y avait des Noirs, il y avait des Blancs, des Européens, des Africains, des Américains, des convertis et des non-convertis. Il y avait du monde sur le vol. Et quand il y avait cette turbulence, le commandant de bord, il prend son micro, il dit que personne ne bouge, attachez vos ceintures parce que nous traversons une zone de turbulence. Et cette turbulence n'est pas une turbulence que nous avons l'habitude de voir sur ce trajet. Et tout le monde, les gens ont commencé par pleurer. Les gens, et vous savez, cet homme de Dieu, il s'est levé et il a commencé par prêcher l'évangile. Et il leur a dit, c'est le moment de donner sa vie à Christ. Il se croit que vous allez mourir dans les minutes qui vont suivre. Lui, il savait très bien. Il avait la conviction que Dieu ne peut pas l'envoyer quelque part et le faire mourir en cours de route. Il savait très bien qu'il n'allait pas avoir un accident. Donc il s'est levé et il a commencé par prêcher l'évangile. Le jour-là, même les Arabes qui étaient sur ce vol ont donné leur vie à Christ. Les Européens qui étaient sur ce vol, les scientifiques, ceux qui réfléchissent beaucoup, les philosophes, ce jour-là, ils ont donné leur vie à Christ. Quand il a dit c'est le moment de faire une offrande, même les Arabes se sont mis à genoux pour donner l'offrande. Qu'est-ce que je veux nous dire par là? Je pense que nous sommes sur ce vol. Et il y a une zone de tribu, comment on dit déjà? Une zone de... Non, non, je l'ai dit. Une zone de turbulence que nous sommes en train de traverser. Et Dieu nous a mis dans ce vol pour pouvoir aider tous ceux qui sont autour de nous. C'est le moment de parler du salut. La Bible dit, si tu crois et si tu te baptises, tu seras sauvé. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. En ce moment-ci, prenons des nouvelles des personnes, qui soient malades ou qui ne soient pas malades, c'est le moment de leur parler du Seigneur. C'est le moment de les interpeller. Moi, dans mon travail, il est strictement interdit de parler de la Bible. Il est strictement interdit de parler de Dieu. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui a été convoqué par la direction il y a quelques semaines de cela. Mais au jour d'aujourd'hui, avec liberté, je parle de la Bible. Avec liberté, je parle du Seigneur. Et ils m'écoutent, même ceux qui l'interdisent. Ils l'écoutent maintenant avec attention parce qu'ils voient qu'ils sont en danger. Tout le monde a peur. Nous ne devons pas avoir peur. Nous devons utiliser ce moment de confination et pouvoir interpeller nos amis. Parlons de Dieu, parlons de Jésus comme nous ne l'avons jamais fait auparavant. J'espère que vous avez été bénis ce matin. Je prie, Seigneur, que les cœurs soient touchés par ce message.
Alléluia.
Seigneur, ce matin, je prie pour mes frères, mes sœurs, qui ont écouté le son de ma voix. Nous ne nous sommes pas vus, mais vous avez écouté le son de ma voix. Croyez-moi, c'est Dieu qui est en train de vous parler ce matin. Et le Seigneur qui vous parle ce matin nous appelle à la vigilance. Il nous appelle à vraiment prendre conscience de cette situation. Ce n'est pas encore la fin, mais nous allons vers la fin. Seigneur, je te dis merci pour ce moment. Je te glorifie et je te bénis, Seigneur, pour toutes ces personnes qui sont connectées en ce moment et ont entendu cette parole. Je prie, Seigneur, que cette parole germe et porte du fruit dans leur cœur. Seigneur, je te rends toute la gloire. Que ton nom soit élevé. Merci, Papa. Merci, Jésus. Amen.